Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans Un revenant de l'Expo, cette émission qui se situe sur notre grille, la grille de Radio Plus FM, tous les vendredis de 14h à 15h, qui est rediffusée le dimanche à 20h et qu'on peut retrouver en podcast, évidemment, sur notre site de radio. Alors, le gimmick, eh bien, c'est que de cette émission, c'est que toutes les semaines, on tend notre micro à des gens qui veulent quand même bien venir jusqu'ici pour qu'ils nous parlent d'art plastique, de beaux-arts, de beaux objets. Et nous avons, vous en souvenez, la semaine prochaine, rencontré Patrick Michel, qui est le fils de Fernand Michel. Fernand Michel, auquel nous avons fait référence donc, pendant 2 heures, mais qui sera encore présent cette fois-ci, au travers du musée qui a été ouvert par son fils Patrick. Donc Fernand Michel, on l'a vu, c'était un artiste assez inclassable, qui était prolixe, qui a créé beaucoup de choses dans différentes techniques, de la peinture, du dessin, le travail sur le zinc, etc., qui a été connu sur la fin de sa vie et qui donc a motivé l'ouverture de ce musée qui accueille d'une façon beaucoup plus large d'autres artistes. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Patrick. Ce musée de l'art brut se situe donc dans le quartier des Beaux-Arts à Montpellier, ça tombe très bien. C'est un musée privé, ça a son importance et donc nous allons en parler avec vous. Patrick, bonjour.
Bonjour, encore une fois merci.
Ben de rien, c'est un plaisir. Merci à Adrien qui assure encore la technique de cette émission. Donc c'est un gros héritage. Donc petit rappel, vous êtes le fils de Patrick Michel, c'est ce que je disais. Donc cet artiste inclassable, ce zingueur zen, comme on disait, la Fernanderie, parce qu'il s'appelait Fernand. C'est quand même un héritage important, mais difficile.
Oui, bien sûr, oui. Le zingueur zingué, on va dire. Mais oui, c'est un héritage. C'est quelque chose, au départ, qu'on n'avait pas prévu. Mais effectivement...
qu'on n'avait pas prévu, on sait très bien...
Pour le musée, voilà.
Oui, voilà
c'est
oui.
Vrai que c'est comme je disais...
Lui n'avait pas anticipé sur sa disparition. Enfin, il n'avait pas prévu quelque chose par rapport à son travail.
Comme je vous disais la semaine dernière, il appelait ça l'atelier musée. Et ce sont uniquement les gens qui passaient, qui venaient voir et qui s'intéressaient à son œuvre.
Bon, mais nous, 3000 œuvres quand même.
Ah oui, oui, il a beaucoup produit, mais on ne sait pas exactement, comme c'était quelqu'un qui donnait beaucoup, on ne sait pas exactement, il n'y avait pas de compte, rien n'était tenu. On n'est pas dans l'architecture, des, voilà, et les prix et ainsi de suite, c'était tout à fait... comme vous disiez, le bazar, peut-être, on peut dire ça.
Je disais voilà. Le joyeux bordel.
Le joyeux bordel, c'est encore mieux.
C'est ça.
C'est ça.
Non. Je pense qu'il aurait préféré peut-être cette expression.
Oui, ça tout à fait. Ça, tout à fait oui. Et donc, c'est après sa mort qu'on a décidé, effectivement, peut-être 10 ans après sa mort, de monter un musée pour faire reconnaître son œuvre au-delà de ce qui se passait avant. Et puis de conserver ce patrimoine.
Et qui avait été reconnu quand même.
Hein, qui avait été reconnu, puisqu'il exposait il exposait partout. Il a énormément exposé dans toutes les villes de France, en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, en Belgique. Enfin, je ne vais pas tout énumérer. Mais l'intérêt était de garder vivant, on va dire, cette mémoire.
Donc, vous vous y collez. Et comment on crée un musée privé en particulier? Comment on s'y prend?
Mais on va dire
vous
que c'est
pas... déjà du matériau, hein, mais bon.
Oui, on va dire que c'est pas facile. Hein. C'est une passion. Mmh. Voilà, on va dire une passion. Mmh. Comment trouver tous ces gens qui sont rentrés dans cette mouvance art brut? Mais comme je vous disais tout à l'heure, on en parlera. L'art brut, c'est très très compliqué. On peut en parler des heures et des heures. Parce que maintenant, qui est un art aujourd'hui, qui n'était pas connu, qui était rejeté de tous, aujourd'hui c'est un art qui est devenu, on va dire, presque un art marchand.
Alors,
mais
oui,
on en parlera un peu plus tard.
On va en parler un petit peu plus tard. Reste qu'effectivement, il y a eu une période pour l'art brut, ou pour l'art insolite. Ouais. À un moment donné, dans les années 70-80, c'était encore un peu tôt.
C'était même très tôt, on va dire.
Et ça se déclare beaucoup plus tard. Donc vous allez créer le musée 10 ans après le décès de votre papa, c'est-à-dire dans les années...
Il est décédé en 1999. Donc nous, l'ouverture du musée était en 2016.
Donc, à ce moment-là, l'art brut est déjà quand même connu, reconnu. Et le musée a une raison d'être.
Et disons qu'il est beaucoup plus connu que ce qu'il était avant.
D'accord.
Puisqu'avant, comme on disait, Première, Deuxième Guerre mondiale, tout ça, c'était un art rejeté. Personne n'en voulait, puisqu'on appelait ça l'art des fous. Et donc, on revient sur Dubuffet, qui a été l'instigateur de cet art, qui s'est intéressé avec lui et qui l'a mis à l'honneur en 1945 en donnant la définition art brut, qui aujourd'hui est très controversée aussi, mais on en parlera un peu plus tard.
Alors, un musée, c'est une thématique. Bon, ça, on a bien compris que c'était l'art brut, ça part de l'œuvre de votre papa. Vous avez décidé d'élargir à d'autres artistes, mais c'est un lieu aussi. Et le lieu, de façon très curieuse, il inclut la maison de l'artiste, la maison de famille.
Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que bon, on a repensé la maison et on a fait un musée. Mais pour que ce musée soit vivable, effectivement, il fallait le rattacher à d'autres. On ne pouvait pas faire un musée que pour Fernand Michel. Donc on a voulu rencontrer, et ça a été beaucoup de temps, on a mis 10 ans à peu près, pour rencontrer...
Ah, c'est ce qui explique ces fameux 10 ans entre le décès de votre papa et l'ouverture du musée.
Oui. On a mis 10 ans pour rencontrer les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants des gens qui étaient connus, des créateurs. On appelle ça des créateurs, on n'appelle pas ça des artistes. On appelle ça des créateurs, les grands-parents, les arrière-trucs, pour voir s'ils étaient prêts à faire des dons pour un musée, parce que là, l'œuvre est protégée ou quoi que ce soit. On a fait beaucoup de voyages, beaucoup d'efforts. Ensuite, on a acheté des œuvres par le biais de mécènes. Et on a constitué en 10 ans toute une collection, mais toujours en recherchant les gens les plus connus dans ce domaine de l'art. Bien sûr,
vous vouliez faire un lieu de référence quand même.
Un lieu de référence, on va le dire, tel que celui de Lausanne. Puisqu'à Lausanne, vous avez le plus grand musée d'art brut au monde, qui est la collection de Jean Dubuffet, où aujourd'hui il y a 3000 œuvres. Et prendre les personnes qui sont dans les livres et qui sont reconnues. Donc ça a été un gros, gros travail, déjà. Voilà. Et tout ça, je crois que c'est par passion, parce que bon...
Ah, j'allais vous dire, mais vous étiez tout seul à faire ça
Mais bon, il y a mon frère qui est derrière aussi, puis on a des amis, et puis là, voilà.
Parce que ça demande effectivement...
Il faut voir beaucoup de gens. On a rencontré déjà des peintres comme Yvon Talandier, qui nous a beaucoup aidés, qui lui n'est pas dans l'art brut, mais qui est dans la figuration libre. C'est le pape de la figuration libre. Aujourd'hui, on parle de Di Rosa, de Combas. C'est Talandier qui a créé la figuration. Donc ce sont des gens âgés qui ont connu aussi la période de Picasso et ainsi de suite, mais qui avaient des ouvertures. On a rencontré des écrivains, des rédacteurs, on a rencontré beaucoup, beaucoup de monde dans cet art et qui nous ont traités de fous d'ailleurs. Parce que monter un musée d'art brut à Montpellier, c'était quand même assez... bon, ça n'existait pas, pourquoi, ça ne marchera jamais, voilà. Mais on a persisté et on a réussi donc à monter une collection.
Une collection.
Et qui aujourd'hui, depuis que le musée est ouvert, et grâce au mécénat, on continue à acheter des œuvres encore très très importantes sur l'art brut. Parce qu'on ne veut pas rester sur... on veut pas concurrencer, mais montrer au public tout ce que peut contenir ce mot art brut.
Oui, parce que c'est vrai que c'est très varié, très divers, que c'est accessible à tout le monde, en fait. Moi, je pense que ça me paraît très important d'en parler aussi. Je pense que votre papa était quelqu'un d'extrêmement gai, joyeux, plein d'humour. Mais c'était quelqu'un du peuple. Enfin, c'était pas quelqu'un qui avait une éducation forcément artistique, etc. Et il est devenu, vous dites créateur, moi je dis artiste. Mais ça s'adresse à des gens, à un public qui est quand même très large. Les enfants se régalent, les adultes en prennent plein la vue. C'est un drôle de petit musée quand même. Il est vraiment unique en son genre, effectivement.
Il est unique. Pour revenir à mon père, il était quand même très cultivé, parce que le fait d'être relieur d'art,
oui,
d'être dans la...
Tout à fait.
Il connaissait tous les surréalistes et tous ces gens-là, et puis il reliait des livres très, très importants.
Mais c'était quelqu'un qui n'était pas destiné...
Il n'était pas du tout destiné...
à rentrer dans le monde de l'art, dans le milieu de l'art, et être en contact avec des gens comme il a pu rencontrer.
Et c'est un art qui est effectivement très agréable, très créatif, et qui était à la portée de tous. On va dire, on n'a pas besoin d'avoir des textes pour expliquer le fait de voir un tableau et de voir la créativité qu'il y a dans un tableau et des choses parfois uniques, déjà vous laisse
pantois. Donc là, j'ai deux questions à ce stade-là à vous poser. Comment fait-on le choix des œuvres qui seront exposées? Alors, le choix des œuvres que vous exposerez de votre père, ou que vous exposez de votre père, je dis que vous exposerez quand vous étiez dans le projet de ce musée, et le choix des œuvres qui viendront compléter ça, puisque c'est un musée qui est ouvert à tout un tas d'autres artistes, parce qu'il faut quand même s'y connaître un petit peu, il faut avoir un œil, et là il ne suffit pas peut-être d'avoir que la sensibilité, il faut qu'il y ait quand même une garantie, j'allais dire, entre guillemets, de valeur muséale.
Alors il faut savoir que bon... la collection de, du Buffet, qui était reconnue.
L'une des pistes.
Oui, est une piste. Ensuite, la deuxième collection de, du Buffet a été donnée au musée de Lille Métropole, il y a maintenant 35 ans. Et il y a 35 ans, c'est le premier musée au monde d'art moderne et d'art contemporain à inclure une collection d'art brut dans son musée. Au passage, notre collection est la deuxième en France après le musée de Lille Métropole.
Après, il y a c'est très... à Montpellier, hein, vous avez bien
c'est
entendu.
À Montpellier.
C'est au musée d'art brut de Montpellier.
Très peu de musées d'art brut. Je reste sur la notion art brut. On est le deuxième musée. Il y a d'autres collections. Il y a un très grand collectionneur à Paris qui est connu mondialement, mais qui ne présente pas les œuvres. Et donc, c'est quelque chose d'unique, effectivement.
Donc ça, le choix de ces œuvres-là, vous le faites grâce à des spécialistes, pas simplement des amis de votre père ou des gens qui connaissaient son œuvre. Il faut que vous rencontriez d'autres spécialistes.
Alors, il faut savoir que donc, depuis 40 ans, il y a une documentation déjà sur ces gens-là, que l'on retrouve dans tous les grands musées, effectivement, grâce à Dubuffet aussi, bien sûr. Et cette documentation vous présente les 150, on va dire, arts bruts reconnus dans le monde. Il y en a d'autres, certainement, mais les plus connus sont dans tous les bouquins, et dans tous les bouquins, on retrouve les mêmes, avec les mêmes cartels, les mêmes histoires ou quoi que ce soit. Donc, en prenant ceci, ces artistes-là, ces créateurs-là, on est à la recherche de ces gens-là, pour avoir leur
œuvre. Quelles sont les œuvres, par exemple, dans le musée, citément une ou deux, que vous êtes vraiment particulièrement fiers d'avoir et que vous pensiez ne jamais avoir?
On peut dire Aloïse Corbas. Aloïse Corbas, qui est une...
À ne pas confondre avec Combas.
Non, Aloïse Corbas, qui est une Suissesse, qui aujourd'hui, on représente dans le musée 5 œuvres d'Aloïse Corbas, mais c'est exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de musées qui ont 5 œuvres de... Le musée de la fabuloserie à d'ici a une œuvre d'Aloïse Corbas. Bon, bien sûr, le Lame de Lille en a beaucoup plus aussi. Et évidemment, toutes les œuvres d'Aloïse sont à Lausanne.
Un autre auquel vous penseriez?
On note, il y a aussi Jean-Yves Fleury-Crépin, ou alors, comment il s'appelle, Carlos Zenelli, Baya.
Ça, ce sont des œuvres pour lesquelles vous avez, entre guillemets, lutté pour obtenir
qui aujourd'hui sont
la propriété, ou en tout cas le
sont,
prêt.
Oui, qui sont sur le haut du pavé, on va dire. Augustin Lesage. Augustin Lesage, c'est quelqu'un qui était... son père était dans le Nord, il était mineur de fonds. Et quand le père est mineur de fonds, le fils est mineur de fonds, et c'est de suite. Et là, le fils mineur de fonds, qui part à 5 heures du matin à la mine et qui reste dans la mine toute la journée jusqu'à 2-3 heures, trouve encore la force de faire des tableaux la journée et jusque tard dans la nuit. Il dort très très peu. Et les œuvres de Lesage sont... aujourd'hui, bien sûr, recherché dans le monde entier.
Alors, c'est vrai que ce sont souvent des artistes qui, effectivement, soit sont pour certains internés, mais ce n'est pas le cas de tous, loin de là. Il y a plein de ces artistes qui ont des métiers. Il y en a qui ont tenu des bureaux de tabac, il y en a qui ont... et qui développent un travail qui leur est personnel, qui probablement fait partie des choses qui leur permettent de s'évader un peu de leur quotidien, probablement de névrose aussi, et de choses comme ça. Et donc, sont reconnus. Mais comment sont-ils découverts?
Alors, on va revenir sur Dubuffet, parce que c'est quand même le personnage.
Mais il n'est plus là, Dubuffet, aujourd'hui.
Mais si vous voulez, ben oui, non, mais c'est pour ça que c'est très difficile aujourd'hui de trouver quelqu'un qui est dans l'art brut. C'est complètement difficile. Il faut savoir que la définition de l'art brut à l'époque de Jean Dubuffet, qui est aujourd'hui très critiquée maintenant, parce que tout évolue, mais la définition, c'était des gens qui sont 100% autodidactes, qui n'ont jamais appris ou quoi que ce soit, et avec 80% d'enfermement psychiatrique, carcéral, ou des marginaux qui sont dans la nature. Ça, c'est la définition de l'art brut, la plus dure qui a été amenée par Jean Dubuffet. aujourd'hui, nous, tous les musées d'art brut veulent garder cette chose-là. Mais c'est vrai que maintenant, on peut dire que c'est de l'art singulier. C'est-à-dire que ça peut être vous, moi, on se balade dans la nature, on trouve un bout de bois qui ressemble à quelque chose, et on est attiré, on le prend et on va faire quelque chose. Mais on n'est plus dans l'art brut.
On n'est plus dans l'art brut.
On n'est plus dans l'art brut. Voilà. Ces créateurs, ils ont travaillé avec leurs tripes, sans savoir ce qu'ils faisaient parfois, qui ne connaissaient pas la signature, qui ne... Voilà, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de... sous les tableaux, il n'y a pas de d'année, il n'y a rien. Vous ne connaissez pas tout ça.
C'est un peu le vrac, effectivement. Mmh. Cela dit, on va revenir sur cette notion d'art brut, parce que c'est quand même assez important. On verra qu'elle a eu son heure de gloire, mais assez tardivement, et qu'encore une fois, ne fait pas de l'art brut qui veut. On se retrouve tout de suite après cette petite pause musicale, et puis on remercie encore Adrien qui est à la technique aujourd'hui. Vous êtes bien sûr l'antenne de Radio FM+. Profitez-en, c'est toujours un bon moment. Moi, je trouve, en revenant à l'Expo, en tout cas, moi, je passe un très bon moment. Je ne sais pas si c'est le cas de mes invités ni des auditeurs, mais en tout cas pour moi c'est sympa. À tout de suite.
Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté, et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise au marquis. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. Et la mer se déchire, infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et puis, plus loin, des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit des soumises, et l'Alysée se brise aux marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard. Le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises.
Nous sommes toujours en compagnie de Patrick Michel, qui est le fils de Fernand Michel. C'est la deuxième émission que l'on fait ensemble. La première émission était vraiment consacrée à son papa, c'était la semaine dernière. Et Patrick Michel est directeur du musée de la Brouette. Et aujourd'hui, on parle beaucoup plus du musée. Alors, on va revenir, si vous voulez bien, Patrick, sur cette définition de la Brouette, parce que vous aviez terminé ce premier quart d'heure en nous expliquant qu'en fait, c'était l'art des gens qui n'avaient strictement aucune référence, aucune formation artistique. Mais j'allais vous dire, tout le monde ne sort pas des Beaux-Arts aujourd'hui. Beaucoup des artistes qu'on voit d'une certaine façon pourraient s'inscrire dans l'art brut en disant mais moi j'ai aucune formation, ça sort de moi comme ça, y a pas de... Donc il faut peut-être recentrer les choses. Mm-hmm. C'est le côté financier peut-être qui change la donne.
Oui aussi, mais enfin bon, comme je dis toujours, l'art brut c'est le résultat de l'expression d'une folie que tout le monde n'a pas. L'art brut, il n'est pas invité. C'est une urgence. C'est celle de faire émerger ce qui nous habite. La technique n'existe pas.
C'est comme si on crachait quelque chose.
C'est cracher, c'est les tripes. On joue avec ça. Oui. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait. C'est quand même un petit peu différent. Et c'est pour ça que je dis, il faut pour trouver quelqu'un qui fait de l'art brut aujourd'hui, c'est rare. Il faut aller le dénicher, le sortir comment ? Dans les hôpitaux psychiatriques, maintenant, ça s'appelle l'art thérapie.
Ouais.
Mais quand vous avez un directeur d'hôpital qui vous appelle en disant « Venez voir, j'ai quelqu'un, il fait de l'art brut », non, non, on le fait dessiner, on lui apprend, on lui fait faire quelque chose. Et le fait de faire quelque chose, on n'est plus dans cette catégorie de départ de l'art brut.
Mais il y a certaines années, enfin il y a quelques temps maintenant, on avait fait une tentative en exposant dans les gares, me semble-t-il, en tout cas j'avais vu ça dans une gare du Sud-Ouest, des tableaux qui venaient effectivement de gens qui étaient dans des hôpitaux psychiatriques et qui étaient très impressionnants pour certains, où on ressentait totalement cette espèce d'urgence dont vous parlez, ce besoin de cracher une partie de ses névroses, de son âme, parce que c'est ça en fait, hein, il y a une sincérité, alors qu'il n'y a pas effectivement peut-être chez des gens qui n'ont eu aucune approche à l'art précédemment, ni aucune formation, et qui d'un seul coup s'intitule artiste. Voilà. Donc c'est vrai que ça c'était intéressant. Alors est-ce que c'était de l'art-thérapie ? Est-ce que c'était de l'art brut ? J'en sais rien. C'est sûrement au sein de cette tranche d'art-thérapie qu'on peut découvrir encore des gens qui font de l'art brut.
Oui, mais...
Il y a un côté obsessionnel quand même dans l'art brut.
Mais quand même, comme je vous disais, bon, on les fait. On les fait travailler.
On les amène.
On les fait danser, on les fait chanter, on les amène. Ce qui est très bien. Bon, on n'est pas arrivé toujours à la période qu'il faudrait. Avant, c'était la camisole de force. Aujourd'hui, c'est toujours la piqûre chimique ou quoi que ce soit. Mais si vous voulez, pour voir, si on prend par exemple l'artiste André Robillard, qui est reconnu mondialement, qui fait des fusils. André Robillard, il est rentré quand même à l'âge de 9 ans en clinique psychiatrique. Un petit garçon de rien du tout, très méchant. Son père était garde-chasse, donc il allait à la chasse avec lui. Il ne s'entendait pas, il se bagarrait avec son père. Son père ne pouvait pas le garder. Donc on l'a rentré dans un hôpital psychiatrique, près d'Orléans. C'est un des rares...
D'où les fusils d'ailleurs.
Oui, d'où les
fusils. L'obsession du fusil.
Donc il est rentré dans cet hôpital et pareil, on ne savait pas comment le soigner, donc on l'enfermait. On l'enfermait complètement. Et donc, voilà. Et... Il s'évadait, et quand il avait des piqûres, tout ça, c'est quelqu'un qui était très fort, qui avait une force intérieure ou quoi que ce soit. Il s'évadait de la clinique. Bon, et il était dans le parc tout seul, à rêver ou quoi que ce soit. Bien sûr, il ne sortait pas du parc. Il faut savoir qu'à cette époque, les hôpitaux psychiatriques étaient dans l'enfermement total. On n'y rentrait pas, les familles n'y rentraient pas, parce qu'ils n'étaient pas soignés, il faut le savoir. Voilà. Et puis, tout d'un coup, les toubibs, vous voyez, ramasser des feuilles, faire des trucs, tout ça. Et il embêtait personne. Alors voilà comment on devient. On a arrêté de s'acharner sur lui. Et on l'a laissé faire.
À savoir que l'art brut, c'est pas toujours l'art des fous quand même. Non, quand on parle, par exemple, est-ce qu'on peut dire que Picassiette a fait de l'art brut ? C'est-à-dire ce monsieur qui avait couvert sa maison pour faire plaisir à son épouse, je crois, de petites parcelles de mosaïques.
Non, parce qu'il récupère, il récupère quelque chose, il fait un très beau travail. Extraordinaire,
hein. De fou,
comme le facteur cheval aussi.
De fou, sans être enfermable.
Oui, mais il fait un travail d'objets qu'il a déjà ou quoi que ce soit. Ce n'est pas lui qui les a créés. Il monte de trucs, mais il monte un truc formidable. Il faut aller voir Picassiette. Mais c'est exactement pareil que facteur cheval dont on vient de parler. Facteur cheval, on le rentre dans l'art brut. Vous allez me dire, il n'a pas la folie, il n'est pas resté dans un centre psychiatrique ou quoi que ce soit. Mais il y a quand même un sacré vélo dans la tête pour faire ce qu'il a fait. Donc vous voyez, quand on parle de 80% d'enfermement traitement psychiatrique, il y en a 20% qui échappent.
D'accord.
Si on prend Séraphine de Saint-Lys, pareil.
Ah oui,
c'est là, elle est dans la route complètement. Mais voilà, ça devient compliqué. Et ce qui devient de plus en plus compliqué, c'est que cet art aujourd'hui est reconnu. Est reconnu. Alors,
Il y a une cote qui s'établit.
Il y a une cote qui s'établit. C'est devenu un art marchand. Et effectivement, du moment que c'est un art marchand, qu'il y a de l'argent, les philosophes, les bien-pensants et tous les uns et les autres s'intéressent à l'art brut. On écrit des bouquins d'art brut à sa façon, quoi que ce soit. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on a des gens soi-disant très cultivés qui arrivent au musée et disent non, l'art brut, c'est l'art contemporain. Bon, qu'est-ce que vous voulez leur dire ?
Ah, oui, c'est pas tout à fait la même chose, en effet. Donc, cet art brut était reconnu, vous me le disiez, dans les années 99. Mais c'est vrai qu'à une certaine époque, on a eu quand même un président de la République, on a eu plusieurs présidents de la République qui avaient des intentions culturelles, en tout cas, qui avaient une volonté de faire des choses en matière de culture. Je pense au Pompidou, je dis au Pompidou avec AUX, parce que c'était Monsieur et Madame Pompidou.
Ben,
et puis,
oui,
bon, à l'époque, du Mitterrand aussi. Hein.
Je peux vous répondre sur Pompidou, c'est absolument incroyable. Donc, Jean Dubuffet, quand il a arrêté, il avait une collection de 3000 œuvres et est allé voir Pompidou pour monter un musée d'art brut à Paris, qui aurait été le premier musée d'art brut dans le monde. Et les Pompidou, comme vous dites, très cultivés, qui étaient déjà là, et Madame Pompidou surtout.
Qui était très, très, très féru d'art contemporain.
Contemporain,
on n'est pas forcément
ça,
dans l'art classique. Oui.
Et là, Pompidou et la femme Pompidou ont dit à Jean Dubuffet, non, ce que vous avez là, ça ne nous intéresse pas. Voilà, il n'était pas prêt à recevoir encore ces choses-là. Mm-hmm. Donc sa collection, elle est partie malheureusement aux États-Unis. Et elle est restée un moment. Et les gens qui étaient dans l'association de Dubuffet ont dit, c'est pas possible qu'une telle collection soit partie de France. On va en remonter une autre. Ils en ont remonté une autre. Et cette collection a été donnée il y a 35 ans. Alors on revient à ce qu'on disait la dernière émission. Mm-hmm. Cette collection a été donnée il y a 35 ans au musée de Lille Métropole.
Mm-hmm.
Voilà, qui est la deuxième collection
de Dubuffet.
Mais entre-temps, la collection de Jean Dubuffet a pu revenir, non pas en France, mais à Lausanne, grâce à l'intervention de son secrétaire.
Ah, c'est comme ça que nous avons perdu cette fameuse collection. Donc c'est une collection à l'origine qui était destinée à la France, mais refusée d'une certaine façon, en tout cas pas soutenue par la puissance publique, qui part aux États-Unis et revient à Lausanne. Reste quand même la question de la sincérité de l'œuvre. Est-ce que les gens qui font de l'art brut se rendent compte de ce qu'ils font, pour certains ? Est-ce qu'à un moment donné, ils prennent conscience de la valeur de ce qu'ils font ? Votre papa, par exemple, lui, il était conscient de ce qu'il... Enfin, il était conscient. Il aimait ce qu'il faisait, il le faisait par passion, il y avait une sincérité, une authenticité, mais il était quand même conscient qu'il crée une œuvre, d'une certaine façon.
Oui, il crée une œuvre, mais il crée une œuvre aussi, une œuvre que pour lui.
Mmh.
Il n'était pas intéressé par des ventes ou par des quoi que ce soit, c'était l'amour. Après, c'est arrivé, au fur et à mesure. Mais je veux dire, par là, c'est pareil pour tous ces gens, oui, il y a une sincérité. Il y en a qui n'ont jamais su ce qu'ils ont fait. Pourtant, ils ont travaillé, ils ont fait des œuvres.
Qui sont morts avant de le savoir ou qui n'en ont jamais eu conscience.
Prenez Séraphine de Saint-Lys, elle n'a jamais exposé avant.
Oui, alors on va raconter rapidement l'histoire parce que c'est l'histoire d'une femme qui est donc qui s'appelle Séraphine, qui est donc femme de ménage qui travaille pour un médecin. Me semble-t-il.
Non, c'est pendant la guerre, elle est femme de ménage dans une ferme.
Oui, c'est ça, dans une ferme.
Et le propriétaire est quelqu'un d'horrible et qui l'a fait travailler par terre, les chiffons, pénibilité et compagnie. Et entre-temps, il y a aussi un pilote allemand qui arrive,
c'est
se cache dans cette ferme
et qui voit
Séraphine être insultée par le propriétaire ou quoi que ce soit. Et même le propriétaire, l'aviateur qui est là, il paye, c'est quelque chose d'horrible, comme ça. Et puis cet aviateur commence un petit peu à lui acheter des pinceaux, des œuvres, tout ça. Car au départ, Séraphine, on n'en parle pas souvent, mais on dit qu'en travaillant, elle s'était écorché le doigt à un moment donné, elle a vu qu'il y avait du sang, tout ça, elle a mis sur un papier, et elle a un peu commencé. Voilà. Et c'est ce personnage qui a commencé à lui apporter des choses.
Cet aviateur allemand.
Et voilà, jusqu'à un moment donné où il y a la libération, il est libéré, il ne la voit plus. Et puis après, bon, il se revoit. Mais il n'y a jamais eu d'exposition du temps de Séraphine.
Voilà.
Jamais.
Oui, c'est ça. Les expositions sont arrivées après. Voilà. Elle n'a jamais connu sa notoriété.
Elle n'a jamais connu sa notoriété.
Alors, moi, je me posais la question de savoir si à un moment donné, justement, dans la mesure où certaines œuvres de l'art brut, maintenant, sont cotées, valent beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous, est-ce que ce n'est pas là qu'à un moment donné, finira par y avoir une réconciliation entre l'art traditionnel, l'art moderne, l'art contemporain et finalement l'art brut, parce que c'est une question de cote. Alors, c'est un peu massin comme système, mais je suis en train de me demander si la reconnaissance de l'art brut ne va pas permettre, effectivement, de l'inclure dans l'histoire de l'art pictural ou des objets, des sculptures français.
Alors, bien sûr, ça va arriver, ça y est déjà, on va dire ça y est déjà, parce que des musées d'art brut, il y en a dans le monde entier, dans toutes les grandes capitales, que ce soit à New York, à Londres ou ailleurs. Et si vous voulez, ça va continuer avec la spéculation qu'il y a derrière, effectivement, à inonder le marché ou quoi que ce soit. Et tous les gens qui ne sont pas sur ce système-là, on va dire les conservateurs de musées ou quoi que ce soit, qui sont toujours dans leur optique, 13e siècle et compagnie, le rejettent encore.
13e siècle et suivant.
Et suivant, oui, bien sûr, le rejettent encore. Donc, de toute façon, ça va augmenter en puissance. Moi, j'ai fait les Beaux-Arts il y a 50 ans. On avait un maître de conférence qui nous parlait d'art brut, qui nous parlait du Buffet. Aujourd'hui, au musée des Beaux-Arts à l'école de Beaux-Arts de Montpellier, on a des étudiants qui viennent et qui nous disent « Non, on ne nous parle pas d'art brut ».
Alors oui,
Et de
façon très surprenante, certains d'entre eux ne sont jamais allés au musée Fabre.
Donc ça, vous me l'apprenez.
Oui, alors je le tiens d'un professeur de l'ESBA qui me dit « C'est étonnant, certains de mes étudiants ne sont jamais allés au musée Fabre ». Donc ça montre peut-être un désintérêt ou une acculturation peut-être de ce milieu-là. Enfin, moi j'y vais un peu fort là, mais...
Non, mais vous avez raison, mais moi je vous donne... Il faut savoir qu'en France, la culture, bon, on la met en valeur, tout ça c'est très bien, on s'en sert, c'est politique aussi, enfin tout le monde s'en sert, mais il faut savoir qu'en France, il y a 20% des Français qui vont dans les musées. Il n'y en a pas plus.
Et pourtant, il y a des efforts de la part des musées pour faire des tarifs intéressants,
oui,
etc.
Oui.
Pour même faire des entrées gratuites, des journées portes ouvertes,
même
etc.
Même avec des entrées gratuites. Nous malheureusement
vous êtes obligés de faire payer.
On fait payer. Mais quand vous avez les journées, tous les dimanches du mois gratuits, il y a deux personnes ou quatre personnes qui viennent dans la journée gratuite pour rentrer. C'est minime.
Et est-ce que vous avez pensé à faire des visites guidées dans ce musée?
Ah ben on fait des visites guidées, oui. Mais ça, bien sûr, les visites guidées font partie. Les visites guidées durent 2 heures et on explique, bien sûr, toute la situation.
Et donc,
tous les jours où le musée est
ouvert?
C'est uniquement sur rendez-vous par groupe.
D'accord, et par groupe. Et pas pour des individuels?
Pas encore.
Plus difficilement. Ça va venir?
C'est quelque chose qui va progresser, parce que bon, maintenant, on commence à avoir quand même des cars qui arrivent avec des 60 personnes qui viennent au musée. C'est quand même assez intéressant.
Ça commence à faire beaucoup de monde. Oui. Donc ce musée, finalement, il est là depuis 10 ans, et petit à petit, il a pris petit à petit sa place. Ça a été long, j'ai l'impression.
Nous, on s'est donné 10 ans pour arriver à un certain nombre
niveau,
de visiteurs.
Et à un certain niveau aussi.
Et un certain niveau, et pour évidemment que tous les... Puisque là, on est bénévole un peu partout, pour que tout soit rentabilisé. Qu'on n'ait plus besoin des mécènes qui nous aident et qui continuent. Donc, on est en avance sur nos 10 ans, on va dire. On a 2 ans d'avance.
D'accord.
Donc, on est vraiment satisfait. Les réseaux sociaux nous mettent à la une de tous les...
Oui,
de
c'est
tous
un
les
lieu,
lieux, même voilà. Des lieux publics, on
tout
passe
à fait,
devant.
C'est un lieu repéré, ça.
90% des gens qui viennent au musée sont satisfaits et le conseil y revient. C'est incroyable. Donc, si vous voulez, voilà, nous, on est, pour le moment, on est. C'est pas. Il faut savoir que le musée de la fabuloserie, ou on va dire plutôt le musée de Lausanne, qui a aujourd'hui 60 ans, a 45 000 visiteurs. Il n'en a pas plus. Le musée de la fabuloserie à Dissy, qui est ouvert depuis 30 ans aussi, a 15 000 visiteurs par an. Alors évidemment, il est connu dans le monde entier, mais c'est 15 000 visiteurs. Donc je veux dire, le jour où on va arriver à 15 000 visiteurs, même pas en 10 ans, on sera les rois du monde.
Oui, oui. Donc vous êtes satisfait, c'était finalement une bonne idée.
C'est une passion. Ça montre que, effectivement.
Mais vous arrivez à la faire partager, l'idée, c'était ça.
C'est le public qui juge.
Qui décide.
C'est le public
qui décide. Bien. Patrick. On arrive presque au dernier quart d'heure de la deuxième émission, donc voilà, ben on va être obligé de se quitter à un moment donné. Mais bon, on va voir comment ce musée privé est vivant, donc on a vu qu'il avait bien progressé depuis qu'il a été créé, qu'il arrive à ses 10 ans, que les objectifs sont presque atteints. Mais on va voir quand même comment vous avez à faire vivre ça. Alors, je sais bien que parler de sous, c'est un peu caca, entre guillemets, que votre papa, lui, n'en parlait jamais ou très peu, en tout cas préférait donner, échanger que de vendre. Mais là, vous avez finalement une entreprise, hein, il faut la faire fonctionner. Donc, on se retrouve tout de suite après. On va écouter de la musique et puis on se trouve après.
Volontiers.
Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Work, 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 Sinora, work it all the time. My girl's name is Sonora, I tell you friends I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body on time. Whoa! Shake, 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 Sinora, shake your body line. Whoop. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Work, 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 Sinora, work it all the time. You can talk about cha-cha, tango, waltz, or the rumba. Sinora's dance has no title. You jump in the saddle, hold on to the bridle. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body. Rock your body, child. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Whoa. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Yeah. Work, 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 Sinora, work it all the time. Sinora, she's a sensation, the reason for aviation. And fellas, you got to watch it. When she wind up, she bottom, she go like a rocket. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Heist those skirts a little higher. Jump in the line, rock your body in time. Off the chimney. Jump in the line, rock your body in time. Whoa! Shake, 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 Sinora. Shake your body line. Work, 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 Sinora. Work it all the time. Dance, 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 Sinora. Dance it all the time. Work, 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 Sinora. Work it all the time. Sinora dances calypso. Left to right is the tempo. And when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora.
Ben écoutez, on continue notre émission, c'est le dernier quart d'heure, hein. Ça fait deux émissions consacrées donc au musée d'art brut de Montpellier, à Fernand Michel, qui est décédé mais qui était un artiste donc reconnu de son époque, qui a été finalement d'une certaine façon à l'origine de ce musée, qui a été constitué par ses fils et en particulier par Patrick Michel qui est notre invité aujourd'hui. Je fais un petit récapitulatif, merci à Adrien qui est à la technique, mais Adrien qui est convaincu, hein. Je crois qu'il ira au musée parce qu'il en entend parler maintenant depuis un petit moment, depuis deux semaine, et il est assez convaincu, donc on est content pour lui, et nous, ça nous fait toujours plaisir de réussir à amener des gens vers le musée. Je pense que vous aussi, puisque Patrick Michel, un musée, c'est une entreprise.
On peut dire ça. On peut dire ça, oui, bien sûr, oui. Il faut gérer. Et dans la mesure où on est un musée privé, mais géré par une association, effectivement, c'est pas si facile que ça.
Il faut équilibrer les comptes.
Il faut équilibrer les comptes et bon, voilà, sans aide de qui que ce soit, malheureusement.
Alors, mais ça, j'aimerais bien qu'on en parle, parce qu'effectivement, vous nous avez dit, alors vous en parlez si vous voulez, mais oui, moi, je crois que c'est important. L'histoire n'est pas de montrer du doigt telle ou telle institution.
Non, bien sûr que non.
Le problème, c'est que ce musée qui est repéré, reconnu, qui est dans les guides, qui vous envoie beaucoup de gens en définitive, qui est connu par les Montpellieriens, mais bien au-delà des Montpellierins, qui, à chaque fois que quelqu'un y met les pieds, il en ressort totalement ébloui en se disant, mais on vient de découvrir un endroit fabuleux. Ben cet endroit n'est pas très soutenu par les institutions. Il faut que vous partiez toujours avec votre valise de, j'allais dire presque de représentant de commerce pour aller chercher des sous, quoi.
Ben comme toutes les associations, on est toujours.
Toutes n'ont pas un musée sous la.
Dans leur... Non, elles n'ont pas un musée. Bon, voilà. Mais bon, ça me fait penser aussi à Andrea Ferréol, qui a l'actrice qui avait joué dans le film La Grande Bouffe, qui est à Aix et qui fait découvrir toutes les vieilles demeures d'Aix et qui en fait des lieux artistiques pendant une semaine. Elle me dit, moi je suis... bien sûr, elle connaît beaucoup de monde, mais même pour elle, c'est trouver des moyens financiers. Voilà, même si la ville est derrière ou quoi que ce soit, on a besoin. Et tous ces musées, toutes ces associations ont besoin d'argent pour vivre ou survivre. Voilà.
Est-ce que ça dépend du projet culturel? En fait, Montpellier pose sa candidature pour être ville de culture en 2028, si je ne m'abuse. Ça fait donc, enfin, c'est une ville qui a des projets culturels, sinon elle ne s'inscrirait pas dans cette démarche de ville capitale de la culture.
Alors, c'est assez récent, mais c'est quelque chose qui m'a un peu troublé. C'est que Montpellier a reçu hier la ministre de la Culture pour la Montpellier, capitale de la culture. Et je pense que la ministre a fait une gourde pas possible, comme le font beaucoup de nos élus maintenant.
Il faut dire qu'ils traitent beaucoup de dossiers aussi, il faut qu'ils soient au point sur tous les dossiers, c'est pas forcément très facile.
Elle a dit ouvertement que Montpellier était déjà la ville, déjà la ville de la culture, tout ça.
Bon, ça c'était fin novembre, effectivement. Oui.
Là, c'était là. Je pense que c'est peut-être une erreur. Parce qu'elle a dit...
Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est intentionnel? Parce qu'elle peut très bien avoir dit ça en disant, écoutez, vous êtes déjà capitale culturelle, quel serait l'intérêt en 2028 qu'on vous élise capitale de la culture?
Mais voilà, c'est ce que je pense comme vous.
Ah, vous pensez comme moi. Bon, donc du coup, mais enfin c'est vrai
ça c'est autre chose.
C'est vrai, si vous voulez, que Montpellier a quand même une prétention culturelle.
Tout à fait.
Et c'est très étonnant, effectivement, que l'intérêt pour ce musée soit... je ne peux pas dire nul, mais peu important.
Oui, parce
qu'ils
restent encore une fois dans leur cellule, dans leur... Voilà, vous savez, c'est un petit peu comme tous les gens qui aujourd'hui achètent de l'art, des gens qui ont beaucoup d'argent et qui achètent de l'art qui n'est absolument pas un art qu'ils ne connaissent pas.
Oui, c'est
ils
ça.
Ne connaissent pas.
Il faut qu'ils soient rassurés d'une certaine façon.
Ils achètent. Il y a tellement de choses sur le marché, mais parfois c'est personnel. Mais bon, je veux dire par là, quand on met tant d'argent sur une œuvre d'art, il faut au moins que l'artiste soit connu ou pas connu, j'en sais rien. Mais bon, après, on peut acheter tout ce qu'on veut, à quel prix qu'on veut, tout ça. Mais quand on met beaucoup d'argent, et quand je dis beaucoup d'argent, même nos concitoyens ou tous les gens n'ont pas des connaissances sur l'art.
Quels sont, justement, puisque vous parlez des gens qui ont des connaissances ou pas des connaissances, quels sont vos publics? Et j'ai dit bien vos publics et pas votre public. Parce que ce musée est ouvert à tout le monde et tout le monde y va. D'abord, peut-être parce qu'il n'a pas l'air d'un musée, je ne sais pas. Il ne fait pas peur comme un musée.
Oui, non, là, quand on vient au musée, effectivement, déjà, quand on vient au musée, il faut consacrer 2 heures. Et la plupart du temps, le visiteur qui n'est pas branché ou quoi que ce soit, il passe une heure et demie, et il ne s'attend pas à trouver autant d'œuvres différentes les unes des autres, et autant d'œuvres créatives. Et effectivement...
Et colorées. Et très colorées.
Et 90%, on va dire 99% des gens qui viennent dans ce musée sont absolument satisfaits. D'où le résultat des réseaux sociaux qui nous donnent on a les 5 étoiles comme tous les autres musées et on a la plus haute cote 4,8 4,9 je sais pas, donc ça nous satisfait parce que c'est le public là qui vient, c'est pas les
Les pontes.
Les pontes.
C'est ça. Cela dit, je me demande si en fait le public peut cultiver en matière d'art. C'est pas du tout une critique. N'adhère pas plus facilement à ce qu'il peut voir au musée parce que ça, c'est direct. Enfin, il y a quelque chose. Il y a plusieurs degrés de lecture, mais le premier degré est direct. C'est vraiment comme des coups de poing, quoi. Comme des choses étonnantes. On est dans un monde totalement onirique. Ça peut passer par quelque chose qui pourrait ressembler à de la bande dessinée ou fantastique. Enfin, c'est quand même très, très particulier, quoi. Et je me demande si c'est pas un art plus facile d'accès, plus.
Bien sûr, c'est beaucoup plus facile d'accès, mais c'est très créatif. Donc les gens ne s'attendent pas à voir des choses différentes les unes à côté des autres. C'est vraiment, le musée, c'est une collection qui a à peu près 2500 œuvres, et on en présente 800 musées, qui sont toutes différentes, créativement différentes. Ils n'ont pas l'habitude de voir... voilà. Et alors, il y a beaucoup d'œuvres. Hein. Ce n'est pas un musée où il y a une toile sur un seul mur. Voilà, tout est rassemblé ou quoi que ce soit. Mais ça ne gêne personne.
Personne ne
nous a dit, même dans les connaisseurs, « Oui, mais c'est trop dense » ou quoi que ce soit.
Je crois que la densité participe, justement.
Et vous avez toujours...
À exciter la curiosité en permanence, parce qu'on a à peine fini de regarder une œuvre, même pas tout à fait, qu'on est attiré par celle qui est à côté.
Et puis il y a plusieurs salles, voilà. Puis il y a un jardin, puis on rentre dans un autre lieu.
Et ça reste à taille humaine.
Ça reste à taille humaine. Et ensuite, vous avez bien sûr des cartels, des textes qui expliquent les problèmes qu'ils ont eus les uns et les autres, tout ça. Donc les gens sont quand même assez émus par le travail de ces gens-là.
Alors, puisque vous n'êtes pas suivi, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire, par les institutions, est-ce que vous êtes suivi en revanche par des entreprises qui soutiennent votre association pour qu'elle puisse continuer à avancer et acquérir des œuvres? Parce que l'idée, c'est aussi d'acquérir des œuvres, c'est d'organiser des expositions temporaires.
Alors oui, on a quelques entreprises. Bon, mais on continue à chercher des entreprises, comme tout le voilà, puisqu'on est, les mécènes peuvent défiscaliser. Chez nous, on est d'utilité publique. Hein, on a le droit de faire des.
Je répète, association d'utilité publique.
Association d'utilité publique.
Défiscalisation possible au cas où nous aurions un chef d'entreprise qui nous écouterait juste là maintenant. Allez au musée si vous ne le connaissez pas et peut-être positionnez-vous.
Bien sûr, on vend rien, bien sûr, puisque nous, on n'est pas une galerie. Mais effectivement, on a. Bon, mais c'est très difficile. Il faut trouver des amis, des entreprises. C'est compliqué, surtout pour un musée dont on parle. Ça serait un musée qui présente des Picasso à longueur d'année. Je pense que le musée Fabre a plus de facilité à trouver des mécènes. Que notre musée, ça c'est évident.
Et les mécènes ne peuvent pas donner à tout le monde non
plus.
Voilà,
ils ne peuvent pas donner à tout le monde, mais il y a un autre intérêt aussi derrière. Ouais. Voilà. Mais bon, là-dessus, on se bat, et nous avons les entrées sont payantes, bien sûr, et puis on fait des expositions, on fait 3 expositions par an, qui durent 4 mois, ces expositions sont toujours prises par un mécène aussi.
D'accord.
Donc, qui nous paye le financement, le trajet aller-retour, les assurances, les dépliants qu'on
D'accord.
fait pour l'artiste, tout ça.
Donc, ce sont des expositions au nom d'une petite rentrée d'argent.
Oui, une petite rentrée d'argent, comme ça, voilà. Donc, et on a une librairie qui représente à peu près tous les grands bouquins de l'art brut qu'on peut trouver à la Halle Saint-Pierre. Voilà. Parce qu'il faut savoir que la documentation sur l'art brut, elle est aussi importante que sur l'art contemporain ou quoi que ce soit. Ça n'arrête pas.
Alors quand vous parlez de la Halle Saint-Pierre, vous parlez de la Halle Saint-Pierre à Paris.
À Paris.
Effectivement, qui est un endroit très particulier aussi.
Qui est le temple
aussi.
De l'art brut, voilà, qui est un centre d'exposition. Ce n'est pas un musée, mais ils font 2 expos par an qui sont extrêmement, extrêmement fortes.
Donc si vous commencez à vous y intéresser, sachez qu'il y a Paris, il y a Lausanne, il y a Lille, il y a encore d'autres endroits à visiter. Si vous découvrez l'art brut à Montpellier, c'est le moment ensuite d'en savoir un peu plus. Cela dit, là, vous avez juste terminé une exposition qui était consacrée à Kiefer, qui faisait des terres cuites, c'est ça, hein, je ne vous raconte pas d'histoire, avec des personnages assez étonnants, qui ont tous une parenté, ce sont souvent des visages, mais il y a aussi des corps. C'était l'exposition, c'est un peu inspiré d'un art d'Amérique du Sud.
Oui, tout à fait.
D'ailleurs, il est plus ou moins d'origine
diverse. Oui, puis c'est
diverse.
Quelqu'un
qui a une quarantaine d'années, donc c'est un jeune artiste.
C'est un singulier, on peut appeler ça un singulier.
Tout à fait.
C'est un gars très, très charmant, quoi que ce soit, et nous-mêmes on a été étonnés du succès de cette exposition.
Oui. Mais pareil, très accessible, très drôle à regarder dans le détail. Il y a des choses assez étonnantes, vraiment. Voilà.
Et les mois avant lui, c'était Anselme Boisvive, qui est un artiste qui est décédé il y a plus de 80 ans et qui est un véritable art brut, lui. qui était une très très belle exposition.
Donc lui, il a vécu l'art brut avant que l'art brut n'existe.
Et des expositions de ce style, il y en a en ce moment en France, il n'y a plus d'exposition depuis 4 ou 5 ans.
Et si on parlait de la prochaine alors, puisque là, début de 2024, c'est après-demain.
C'est pas dévoilé, mais bon, il n'y a aucun problème.
Ben c'est après-demain.
Voilà.
Alors
bon. on a la prochaine exposition, c'est une dame qui s'appelle Hélène Arnal, qui aussi faisait partie de ces gens de l'époque de mon père, ou peut-être même avant, et qui aujourd'hui est beaucoup plus âgée, qui, effectivement, quand on parlait, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Elle a un atelier où il y a toutes ces sculptures, tout ça, quoi que ce soit, et elle est très connue, elle est dans les livres aussi, d'Arsène Guyot, quoi que ce soit, et donc on va faire un clériol, on va lui faire une rétrospective. C'est une personne qui fait des choses avec du carton, peint, beaucoup dans la tauromachie, puisque son mari, Monsieur Durand, était rédacteur dans beaucoup de revues sur la tauromachie. Voilà. Donc, on va faire une expo avec elle et c'est quelque chose.
Donc, c'est quelqu'un qui est de la région.
Qui est de la région, tout à fait. On va la remettre un petit peu sur le haut de là. Et on l'a exposée là au musée à Montpellier Art,
oui.
On a mis une sculpture et justement, ça nous a encouragés parce qu'elle a été très.
Au salon
des arts.
Au salon
qui était vraiment très, très remarquée. Oui. Donc, bon, voilà.
Voilà. Vous étiez présent au salon.
On est présent, oui, on a chaque année, on en a, parce que bon, nous, c'est aussi, c'est quand même un salon qui tourne, voilà. Et nous, on est là pour présenter le musée et distribuer des prospectus.
Hein. Eh oui, voilà. C'est comme ça qu'on se fait connaître. Voilà. Effectivement, il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi le débat, la discussion avec les gens. Et je pense que celle que vous avez avec les gens qui visitent le musée, comme celle que vous pouvez avoir.
Alors, moi, je ne suis pas en permanence.
Avec des mécènes ou avec des gens qui pourraient être éventuellement des gens qui pourraient faire connaître le musée un peu plus.
D'ailleurs, on a fait une soirée, l'inauguration, qui a porté ses fruits. Parce qu'on a réuni presque plus de 300 chefs d'entreprise de la région qui sont venus.
Et dans ces 300 chefs d'entreprise, il y a peut-être des mécènes.
Il y en a. Ils y étaient déjà.
Moi, je pense à quelqu'un, je vous en parlerai après. Je ne vais pas dire son nom à l'antenne, mais je pense à quelqu'un là, ça me vient à l'esprit. La dernière question, après vous. Puisque vous, ce musée, c'est un héritage, d'une certaine façon. Enfin, c'est l'héritage de l'œuvre de votre père, de la vie de votre père, que vous transformez d'une certaine façon en musée pour la conserver vivante, pour garder cette mémoire. Mais vous, après vous, c'est une association, certes, mais il va falloir la faire vivre. Est-ce que vous avez
la faire vivre, de toute façon,
des enfants qui sont intéressés?
On se prépare à ça. Il y a des enfants, bien sûr, intéressés ou pas intéressés. Mais de toute façon, c'est une collection aujourd'hui qu'on ne peut pas disperser et qui sera proposée à ce moment-là à la ville ou à une autre ville, si voilà. Mais croyez-moi, il y a déjà des villes qui nous des villes qui sont aussi dans la culture et qui nous disent mais si vous arrêtez, nous on reprend.
J'espère que Montpellier ne perdra pas cette opportunité d'avoir.
On n'en est pas là.
Bon, je le dis comme ça. Ça serait dommage que ça quitte Montpellier. Et c'est vraiment d'abord un lieu exceptionnel, une collection aussi hors norme dans tous les sens du terme. Et ça serait dommage que ça quitte Montpellier. Ça pourrait trouver sa place dans un endroit de Montpellier qui appartiendrait effectivement à la ville. Cela dit, je n'en rajouterai pas. Je vous remercie beaucoup, Patrick, d'être venu nous parler de ce musée de l'art brut, d'avoir accepté que nous en fassions deux émissions, parce que vous voyez qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de choses à dire. J'espère qu'on a convaincu les auditeurs de Radio FM+, de venir voir ce musée, visiter ce musée, d'y passer un moment, parce qu'une fois qu'on est rentré, on peut y rester tout le temps qu'on veut, et on peut même faire une pause entre le musée moderne, j'allais dire le bâtiment moderne, et la petite maison d'origine de famille, donc de Fernand Michel, parce qu'entre les deux, il y a un petit jardin et il y a des banquettes extrêmement confortables. Et quand il fait beau, c'est un bonheur. Voilà, mais je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon week-end. Merci Patrick, merci Adrien qui était aux manettes. Et puis, bah, écoutez, je peux vous donner qu'un conseil, vous ne quittez pas Radio FM+, hein, vous allez avoir un peu plus de musique, là. Ça va vous détendre avec le Caravane, l'émission qui est animée par l'association Jazzin. Au revoir, bon week-end à tous et à la prochaine.
Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town, good to me. Oh yeah, she give me money. I got a woman way over town. says loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says loving just for me. Yeah, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town. She's all right. I don't know she's all right. She's all right, she's all right.